Sud Radio, regard de femme.
Avec ce matin le regard de l'avocate Aurore Boyard à Toulon. Bonjour Aurore.
Bonjour à tous.
Avec le regard de l'avocate aussi, Caroline Grima, vous serez entre consoeurs hein, ce matin à Paris. Bonjour Caroline.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter, mais avec le sociologue Serge Guérin, on a parlé du divorce boom à la sortie du confinement, avec notamment une augmentation des divorces, des séparations un peu partout dans le monde et aussi en France. Aurore Boyard, vous vouliez justement vous parler des victimes collatérales dont on a peu parlé finalement après ce confinement, les enfants qui sont devenus, on peut dire plus que jamais, les otages et les enjeux des séparations.
Ah oui, complètement. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'effectivement, avec cette augmentation de procédures de divorce et de séparation, ça veut dire saisine d'un juge, mais pas forcément décision immédiatement. Il va se passer quelques mois avant que les juges ne puissent rendre des décisions. Donc pendant cette période-là, c'est ce qu'on appelle un peu une zone de non-droit. Ouais. Alors il me semble important de rappeler une chose. D'abord, les enfants n'appartiennent à personne, ni à leur père, ni à leur mère. Ce ne sont pas des choses, mais des êtres humains, des adultes en devenir. Deuxième chose, pendant cette zone de non-droit, on entend sans arrêt le père ou la mère dire « j'ai autant de droits que toi sur les enfants, donc je fais ce que je veux ». Ben non, on ne fait pas ce qu'on veut et on ne fait pas n'importe quoi, parce que la seule chose qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et alors on voit, et j'en ai vu, hein, j'en vois en ce moment, et malheureusement là c'est des pères qui prennent les gamins et puis qui partent avec et qui refusent que la mère ne les voie. C'est extrêmement traumatisant pour des enfants, alors ça dure 15 jours, 3 semaines. Le juge après statut sanctionne, mais en attendant le mal est fait. Donc pensez avant tout à vos enfants, essayez de vous arranger. Vous n'avez effectivement pas plus de droits l'un que l'autre, mais vous avez l'impératif nécessité, l'obligation en tant que parent responsable de prendre en compte l'intérêt de vos enfants et de voir comment ça se passait avant. Et deuxième point, qui est important, qui est source de conflit, c'est que souvent les gens sont propriétaires d'un appartement ou d'une maison. Et il y en a un qui part parce que la cohabitation est insupportable. Et alors il part mais il ne rend pas les clés. Donc ça veut dire que celui qui part va avoir un nouveau domicile, mais comme il est propriétaire, il dit « mais je suis propriétaire, j'ai le droit de revenir quand je veux ». Alors non, là aussi, il faut faire une différence entre la propriété d'un bien et la notion de domicile. Voilà, ça évitera
c'est bien noté.
Des conflits, j'espère, et il faut bien rappeler ces notions de base.
Ouais. Je vais vous faire intervenir, Caroline Grima, à ce sujet, mais la justice est encore plus embouteillée que d'habitude. Hein. Je crois savoir qu'il y a 6 mois de retard encore dans les traitements des procédures de divorce aussi et des contentieux.
Alors oui, mais par contre, à Toulon, la présidente du tribunal judiciaire et le bâtonnier nous ont expliqué que nous n'aurions pas vraiment de vacances judiciaires cet été parce que des magistrats se sont portés volontaires, beaucoup, pour justement rattraper le retard et nous aurons des audiences normales en juillet et en août.
D'accord.
Et au lieu d'avoir 4 JAF, le chiffre est doublé. Donc c'est très bien justement pour éviter ce genre de problème.
Caroline Grima, vous vouliez intervenir ?
Écoutez, oui, pour juste compléter ce que vient de dire Aurore, qui est évidemment frappée au coin du bon sens, et dire que on a fait des efforts sur le plan législatif ces dernières années pour essayer d'entendre la voix de l'enfant, mais que c'est finalement délicat parce que on aboutit, vous savez, maintenant on a la possibilité, l'enfant a la possibilité d'être entendu dans le cadre des procédures d'affaires familiales. C'est un droit qui lui est reconnu et qu'il peut solliciter à tout moment par le biais d'un avocat qui lui est désigné. Mais ça aboutit finalement à un effet entre guillemets pervers, c'est-à-dire qu'on l'implique encore plus au cœur du conflit et il devient encore plus un enjeu et ça se traduit pour lui par une problématique de conflit de loyauté terrible. Donc il est extrêmement difficile de trouver des solutions pour à la fois prendre en compte l'intérêt de l'enfant et en même temps ne pas trop l'impliquer éventuellement dans une procédure qui le dépasse et dont il devrait tout ignorer en réalité.
Ouais.
Voilà, donc c'est très délicat.
Caroline Grima, vous vouliez aussi évoquer ce vote des députés qui ont adopté mercredi un amendement pour supprimer la discrimination envers les homosexuels qui donnent leur sang, rappelant qu'ils devaient se soumettre à une période d'abstinence sexuelle de 4 mois avant de donner leur sang. Franchement, on a l'impression que ça date d'un autre siècle, non ?
Alors effectivement, c'est un vote qui est passé à peu près inaperçu.
Oui, c'est vrai.
Ce qui m'a beaucoup étonnée parce que c'est tout de même une avancée extrêmement significative. On se souvient qu'en 1983, on est en pleine pandémie de sida. On avait abouti sur le plan législatif à l'exclusion à vie des donneurs HSH, c'est-à-dire homosexuels ayant des relations avec d'autres hommes, relations multiples. Cette exclusion, elle était à vie. Elle avait été effectivement ramenée à 1 an en 2016, sous l'égide de Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé, puis à 4 mois, en avril de cette année. Et là, on aboutit à une suppression totale. Donc, il faut savoir que c'est un dispositif qui est déjà en place dans de nombreux pays européens, notamment en Europe du Nord, mais pas seulement. Et que, effectivement, c'était une promesse, entre guillemets, qui avait été faite d'assez longue date.
Mais qui a pris son temps, oui.
Voilà, qu'à horizon 2022, il n'y ait plus de discrimination. Alors, il faut quand même savoir, parce que ça n'est pas neutre, sur le plan scientifique en tout cas, que des associations, évidemment, s'en sont émues, et notamment AIDE, ce qui est finalement assez étonnant, parce qu'on aurait pu penser que c'est une association qui allait s'engouffrer dans, justement, cette lutte pour la suppression des discriminations en cette matière.
Émue, c'est-à-dire dans quel sens
ils ont quand même exprimé une inquiétude liée... Écoutez, au souvenir de l'affaire du sang contaminé, qui avait abouti justement à une surdiscrimination des personnes homosexuelles, en rappelant quelque chose qui est assez finalement assez plein de bon sens, c'est de dire que le don du sang n'est pas un droit, mais l'expression d'une volonté, et qu'en revanche, la santé du receveur, la santé absolue du receveur, elle est un droit. Et ils s'inquiètent des statistiques scientifiques qui restent actuelles et qui restent montrées un risque accru. Donc voilà, il y a un débat. Un deuxième vote va avoir lieu le 6 juillet. Donc j'encourage nos auditeurs à suivre ce débat parce que il est extrêmement intéressant. La balance entre la non-discrimination et le risque scientifique. On en a parlé au sujet du coronavirus. Notamment avec ce problème d'hydroxychloroquine, et je crois que là on a un débat qui est encore plus important sur le plan sociétal et à suivre.
Voilà. Merci beaucoup pour vos regards, Caroline Grima et Aurore Boyard.
Merci
à samedi prochain. À suivre dans quelques instants, on va parler de la difficile reprise du spectacle vivant avec notamment la conteuse Caroline Casselli.